C'est bon la vie d'église. On prie toujours que le message ce soit le message de la parole, pas nos pensées ou nos penchants. Que ce soit vraiment la parole de Dieu qui puisse nous enseigner et nous instruire comme on vient de... Et je vous invite déjà à aller chercher dans vos Bibles le chapitre 30 du livre d'Exode, le chapitre 30 du verset 11 à 16. Du verset 11 à 16. Quelques versets. Mais on est rendu dans notre étude de la parole, ce qui concerne la description du tabernacle. OK? On est rendu là. Il y a plusieurs chapitres qu'on étudie depuis quelques semaines. Mais là, ce qui reste comme description pour la construction du tabernacle, c'est la cuve d'airain. On voit ça après le verset 17. Faite pour les sacrificateurs pour qu'ils puissent se laver les mains, les pieds aussi. Se purifier, en fait. C'est un symbole. Donc, c'est ça qui reste encore pour décrire la cuve d'airain, un composant du tabernacle aussi. Et l'huile sainte pour oindre la tente et l'arche aussi. C'est les ustensiles aussi. Lors de la mise en place du sanctuaire, que ça s'en vient au chapitre 40, s'en vient la mise en place, la finition, mettons, la dédicace, si on peut dire, du sanctuaire ou ce qu'on peut appeler aussi le tabernacle. Donc on est rendu là, on est rendu vers la fin de la description de tout ce qui ça va être construit. Mais avant ces deux descriptions qui restent encore, se trouve ce texte-là. Avant ces deux ce texte-là qu'on va étudier ce matin. Donc, je vous invite encore à pouvoir suivre avec moi la lecture du verset 11, chapitre 30. C'est bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu feras le relevé ou le comptage des Israélites pour les dénombrer, on peut parler aussi des recensements, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que nous donnerons tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. Et ce passage-là finit par le verset 16. On lira jusqu'au verset 16. Comment on peut situer ce texte-là qui part d'un recensement au milieu de toutes ces descriptions qu'on vient d'étudier depuis quelques temps dans le livre d'Exode? Plusieurs termes dans ces paragraphes, comme on peut lire dénombrement ou recensement, rançon, ou rachat. Il y a d'autres versions de la Bible où c'est écrit au lieu de rançon, rachat. Plaie aussi, vous avez entendu le mot plaie. Quel est le rapport avec la construction du tabernacle? Quel est ce rapport-là? Quelle est cette ordonnance-là des dieux vers son peuple pour ces dénombrements? Puis on va le voir tranquillement, peu à peu. Mais avant... Dénombrement, c'est surtout dans l'Ancien Testament que ce mot-là est prononcé, les dénombrements. Au recensement aussi dans le Nouveau Testament. Ça veut dire énumération, ou ça veut dire aussi comptage d'un peuple. Okay? Dans ces cas-là, c'était le comptage, comme on a vu, des enfants d'Israël, des hommes de 20 ans et plus. Mais avant Exode 30, avant ce chapitre-là, nous retrouvons dans l'Ancien Testament quelques sortes aussi de recensements aussi et dans la parole de Dieu. On peut lire dans Genèse 46, 8 que Moïse écrit « Voici le nom des fils d'Israël qui vint en Égypte, Jacob et ses fils, lorsque Jacob part vers l'Égypte pour rencontrer Joseph. » Donc il y a toute une liste de noms qui sont rentrés avec Jacob en Égypte. Et dans Exode 1:5 aussi, on peut voir les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. C'était pas dur à compter, hein, c'était juste 70 personnes qui sont allées rejoindre Joseph aussi. Ou encore dans Exode 12:37, plus près de notre passage, les Israélites partirent de Ramsès pour Soukhot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Ça, c'est encore plus clair, c'est beaucoup plus nombreux. 600 000, à peu près 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc, c'est une sorte de dénombrement qu'on voit dans la parole de Dieu avant notre passage qu'on vient de lire du Exode 30. Mais ces dénombrements qu'on vient de lire ne sont pas tout à fait sous la forme que nous lisons dans le verset 12 et 14 de nos Bibles. Dans ce même chapitre, il dit « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. » Donc, il y a ces deux aspects-là. Par contre, après ces passages d'Exode 30, nous retrouvons quelques dénombrements répertoriés dans l'Ancien Testament. Et je parle plutôt de l'Ancien Testament, effectué dans le but d'affecter des hommes israélites âgés de 20 ans et plus pour certaines fonctions, que ce soit pour des opérations militaires, ou que ce soit aussi concerné les lévites et les prêtres, pour les services cultuels aussi. Bon, je vais nommer quelques-uns, le dénombrement de Moïse fait sous l'ordre de Dieu, le premier jour du deuxième mois, de la deuxième année, après la sortie d'Égypte, dans Nombre 1. On peut lire officiellement un dénombrement, sur cette forme-là, et compter les enfants d'Israël de plus de 20 ans. Et toujours sur l'ordre de Dieu, dans Nombre 26 aussi, on peut lire un dénombrement. Moïse fait le dénombrement des 12 tribus après les 40 années au désert, c'est-à-dire après qu'une génération est périe. On voit encore un dénombrement. Et vous connaissez très bien, je pense, le fameux dénombrement du roi David, qu'on peut un peu trouver répertorié dans la Bible, dans 2 Samuel, il y a deux passages parallèles qui racontent cet événement, 2 Samuel 24, de 1 à 9, et en Chronique 21, de 1 à 6. Donc, ces trois dénombrements sous cette forme-là sont présentés, répertoriés dans l'Ancien Testament. D'autres dénombrements, on peut voir aussi, sont mentionnés après le retour de la captivité. On peut voir ces dénombrements dans Esdras. Esdras fait un dénombrement aussi des Israélites. On va beaucoup prononcer le mot dénombrement. Hein. Je me suis pratiqué toute la semaine pour. Mais malgré ça, c'est un long mot. Donc, d'autres dénombrements mentionnés sont après la captivité. Donc, Esdras 2, on peut en voir un. Et dans Néhémie 7 aussi. Vous vous rappelez Néhémie 7 qui fait aussi un dénombrement du peuple d'Israël. Mais nous lisons encore dans le verset 12, « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors de ces dénombrements. Et de la sorte, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Il n'y aura pas de malheur parmi eux ou de maladie parmi eux. » Ce passage a pour but principal d'enseigner au peuple le but de faire un dénombrement. Est-ce que ce passage, c'est comme le modèle pour les dénombrements? Dans un sens, oui. Okay. Mais dans d'autres sens, il y a un enseignement particulier qui est situé justement dans cet temps où on est en train de décrire la confection ou la construction du tabernacle. Donc, de façon implicite, nous voyons dans ces versets que le dénombrement, premièrement, est demandé par Dieu. C'est Dieu qui a le droit de compter son peuple. C'est lui qui commande de compter son peuple. Dans les deux exemples mentionnés dans Nombre 1 et Nombre aussi 26, dans les deux chapitres, l'intention de Dieu, c'est de donner un renouveau à son peuple. Si vous lisez le chapitre 1 de Nombre et le chapitre 26, vous allez voir que l'intention de Dieu, c'est vraiment de donner un renouveau au peuple, ou soit une réorganisation aussi. Un rappel qu'il est toujours avec son peuple. Il veut que son peuple se souvienne qu'il est toujours avec eux. Contrairement à l'intention de David, vous vous rappelez David, lorsqu'il ordonna un dénombrement, cherchant à nourrir plutôt son orgueil en constatant sa puissance militaire. Et plus tard, on voit que David se répand de ce. Il dit lui-même, j'ai commis un grand péché. Un péché d'orgueil et de suffisance, autosuffisance. Il confesse son péché. Il dit d'avoir agi en insensé. Pourquoi? On va peut-être voir clairement après pourquoi. Par contre, dans le cas de Néhémie que je mentionnais tantôt, nous voyons clairement ce que Dieu met dans, c'est Dieu qui met dans le cœur de Néhémie faire ce dénombrement, le désir de le faire. On peut lire ça dans Néhémie 7, le chapitre 7, verset 5. Donc c'est Dieu qui met dans le cœur et Néhémie fait ce dénombrement, un peu à la façon que Moïse le fait. Donc, on peut tirer la conclusion que David aurait pu faire un dénombrement aussi selon le modèle ou selon les consignes de Dieu. Maintenant, dans le texte que nous sommes en train d'étudier, ces dénombrements montrent l'intention vraiment de Dieu de préparer son peuple. De préparer son peuple à quoi? À jouir de sa présence parmi eux. Comment? Au travers de son sanctuaire, par le tabernacle. Il est en train de préparer son peuple pour qu'il puisse jouir de cet événement-là, la construction, et non seulement la construction, il va rester toujours avec eux dans le tabernacle. Sa présence sera parmi son peuple. Et c'est l'intention de Dieu de pouvoir faire ce dénombrement. Maintenant, parlons de la rançon. Chacun, dit le passage, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. En quoi consiste cette rançon-là? On l'a lu dans ce passage-là. Chacun de ceux qui étaient recensés devait verser environ 6 grammes d'argent. Okay? Ça équivaut à peu près à un cycle d'argent. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de monnaie. Okay? Donc, cette offrande-là était en poids. D'ailleurs, une demi-cycle, okay? Et la base du cycle, à peu près 11,4 grammes du sanctuaire. Il y avait comme un cycle qui était attribué juste au sanctuaire. En fait, le mot cycle en hébreu, c'est shekel, qui signifie poids, simplement, poids. Et ça consistait à donner ce poids-là en argent, selon l'étalon officiel du sanctuaire, qu'on le voit aussi dans Nombre 3:47. Quelques allusions à ces passages-là dans les Écritures. Beaucoup en tirent des conclusions par rapport à cette rançon-là. Est-ce que ils l'ont pratiqué selon ce que Moïse avait dit dans le temps? Ces passages-là, on fait allusion à ces passages-là dans l'ordonnance, dans 2 Chroniques, dans le chapitre 24, que le roi Joas désire réparer le temple. Okay? Donc, il veut amasser des fonds pour que le temple soit réparé. Il cite ce passage-là. Ce fut aussi sur cette ordonnance qui se fonda Néhémie aussi, pour pouvoir aussi avoir des fonds aussi pour réparer le temple, les murailles, lorsqu'il réclama aux Israélites un tiers des cycles, dans le même but. Donc on voit que ces hommes-là s'inspirent un peu de ces modèles-là du rançon ou de taxes. Au temps de Jésus aussi, on voit dans Matthieu 17:24, les Juifs avaient pris comme exemple peut-être de ce passage-là. Il y a beaucoup de ressemblances par rapport à la taxe. Et dans ces temps-là de Jésus, ils le faisaient à tous les ans. Il fallait taxer les gens pour l'entretien du temple. Le cycle est devenu, en ces temps-là, de Jésus, un stater, qui veut dire étalon, équivalent à 4 drachmes. Si on voit le passage en Matthieu 17:24, vous allez voir, la drachme juive était à peu près d'un demi-cycle. Et dans ces temps-là, il fallait payer un cycle. On voit quelques allusions de ces passages, même dans le Nouveau Testament. Peut-être pas la même forme, mais ils se sont basés sur ce passage-là pour pouvoir taxer les gens pour qu'il puisse donner pour le temple. Mais il y a une expression dans ce passage-là qui parle de la rançon de sa personne, il dit, dans le verset 12. Deux fois, on voit cette expression, la rançon de sa personne. Verset 12 et verset 15, on voit. Cette expression veut littéralement dire la couverture de son âme ou de sa vie. On peut regarder quelques aspects reliés à cette rançon-là. Cette somme d'argent constitue une sorte d'extension de rachat des premiers-nés qu'il fut réalisé après la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse de racheter chaque mâle avec un sacrifice dans Exode 13. Donc, on peut voir que cet argent constitue une sorte d'extension de ce rachat des premiers-nés. Cette rançon aussi appelait aux Israélites qu'ils appartiennent à Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Par conséquent, chaque personne, chaque Israélite avait besoin d'être racheté par un sacrifice. Donc, ça démontre que Dieu et son peuple, il avait acquis. C'était son peuple. Donc, ce peuple appartenait à Dieu. Lors des tours dénombrement, chacun devrait payer une rançon. Qu'il soit riche, vous l'avez vu dans le texte, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Cette rançon était modique aussi. C'était juste, je pense que chacun de nous pourrait avoir chez vous 6 grammes de plata, c'est espagnol. Plata. Argent, pardon. Ça sort l'espagnol. Hein. Une semaine à vacances avec ma femme, l'espagnol, il est fort. Donc, l'argent, 6 grammes d'argent, je pense que nous tous, nous avons quelque part 6 grammes d'argent, c'est modique, c'est quelqu'un, n'importe qui pourrait donner payer ces sommes-là. Tous devaient donc payer le même poids d'argent, que ce soit riche ou que ce soit pauvre, pour le prix de la rançon de sa vie. C'était plutôt symbolique, ça. C'était plutôt symbolique. Le riche n'a aucun moyen d'acheter la faveur de Dieu, ça c'est vrai. Le riche n'a aucun moyen d'acheter la faveur divine. Et le pauvre n'a aucun moyen aussi d'échapper au paiement. Donc c'était l'égalité pour les deux. Il fallait toujours payer cette offrande, qu'on l'appelle aussi dans ces passages-là. Mais nous lisons à la fin du verset 12, « De la sorte, lorsque de ces dénombrements, il n'y aura pas de plaie parmi eux. » Donc, en faisant cette offrande, en faisant cette taxe, en payant cette taxe en argent, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces passages-là? Cela nous rappelle la plaie que tu as, les premiers-nés, vous vous rappelez, dans la sortie d'Égypte, le premier-né de tous les Égyptiens, mais aussi nous rappelle, frères et sœurs, l'obéissance du peuple. À quoi consistait cette obéissance? De mettre quoi? Du sang sur les linteaux de la porte. Pour échapper aussi à cette plaie. Donc, ça veut dire que si quelqu'un des Juifs ne mettait pas du sang, il aurait pu avoir la plaie aurait pu atteindre aussi le peuple. Mais un exemple frappant, et là, c'est là qu'on revient vers David, se trouve dans le règne de David. Fier de sa force et de son armée, il ordonne un recensement, puis on lit ça dans 2 Samuel 24, 2. Il dit, le roi dit à Joab, le chef de son armée, okay, le roi David, parcourt dans toutes les tribus d'Israël et qu'on dénombre le peuple. Ainsi je serai, et voilà, ainsi je serai, quel est le nombre des hommes du peuple. Il y a un peu d'orgueil là-dedans. Puis après, on voit, il néglige aussi l'ordonnance. On voit nulle part qu'il... Il mentionne l'ordonnance de chaque homme devrait donner une rançon pour son âme. Il néglige ça. L'Éternel envoya, après il dit, on peut voir le passage dans les versets, quelques versets plus tard, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Combien ils sont tombés? 70 000 hommes parmi le peuple sont tombés à cause de la plaie. Les demandes de Dieu sont sérieuses. Les commandements de Dieu sont sérieux. Chacun de ceux qui étaient dénombrés est susceptible à son jugement. Et cela devait être reconnu par l'argent de la rançon. Il y avait aussi l'orgueil. Il y avait surtout l'orgueil à David, mais il y avait aussi négligence. Ça me rappelle aussi le temps que David est allé pour sortir l'arche, vous vous rappelez? L'arche. Et c'était quelque chose de, pour nous, banal. Quelqu'un a pris l'arche pour pas qu'elle tombe. Mais ces gars-là, ils voulaient bien faire. C'est vrai, non? Mais quoi, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il n'était pas lévite. Et c'était les lévites qu'il fallait qu'ils prennent l'arche. Mais on aurait pu dire, mais l'arche allait tomber. Non, les choses se font selon ce que Dieu dit. Et David reconnaît ça après. Il dit, c'est vrai. Et là, après, il le fait comme il fallait le faire. Donc, c'est important dans ce passage-là, le fait du rançon pour leur vie. Maintenant encore, un autre aspect très important concernant l'utilisation de cette rançon, dans le verset 16, et c'est là qu'il prend tout son sens, cet enseignement-là, du recensement, et en ce qui concerne cette offrande. Nous lisons dans le verset 16, « Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon, et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. » C'est-à-dire, le tabernacle, la construction du tabernacle. Tu l'emploieras pour ça. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel, pour la rançon de leur personne, encore une fois, pour le rachat de chacun, le rachat de leur vie. Ça sera pour vous quoi? Un souvenir. C'est ça l'intention de Dieu. Il veut qu'ils s'en souviennent, c'est son peuple, il leur appartient. Et il fallait payer cette rançon-là pour pouvoir avoir ce privilège de jouir de la présence de Dieu à travers le tabernacle. L'argent nécessaire au tabernacle, ce n'était pas simplement un impôt, une taxe. Il ne s'agit pas juste de financer le culte du tabernacle, mais plutôt rappeler aux Israélites qu'ils étaient préservés grâce à la miséricorde de Dieu. Et c'était important, la rançon pour leur âme. La somme était si minime que tous pouvaient la verser. Elle devient donc un acte aussi d'adoration envers Dieu. Parce qu'on voit ici un souvenir devant l'Éternel. Le mot « devant l'Éternel », c'est un acte d'adoration. Cette somme-là, même qui était minime, c'était symbolique. C'est pour ça que je dis « c'est symbolique ». D'autre part, elle était si dérisoire qu'il témoigne que nulle somme d'argent pouvait racheter une âme. Vous êtes d'accord avec moi? Nulle somme d'argent peut racheter une âme. De plus, elle rappelle aussi aux riches comme aux pauvres qu'ils avaient le même besoin de Dieu. Okay, qui dépendaient de lui pour leur rédemption. Puis un passage que j'aimerais qu'on puisse aller voir dans Psaume 49, 2 à 9. Allons dans Psaume 49, 2 à 9, qui nous fait un peu une explication de ce que Dieu dit pour les riches, pour les pauvres aussi. Le Psaume 49. J'allais juste le mentionner, mais ça vaut la peine de lire ces versets. Du verset 2. Il dit, écoutez ceci, vous tous les peuples, vous tous peuples, prêtez l'oreille, vous tous habitants du monde, petits et grands, ensemble, riches et pauvres. Je pense que c'est le cas aussi, petits et grands dans ce recensement, dans ce dénombrement. Ma bouche va prononcer des paroles sages et mon cœur médite des pensées intelligentes. Je prête l'oreille aux sentences. J'expliquerai mes énigmes au son de l'harpe. Pourquoi aurais-je la crainte au jour du malheur lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance à leurs biens, ça y parle des riches, et ils se félicitent de leur grande richesse. Ils ne peuvent se libérer l'un à l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Il ne peut pas le faire. C'est juste Dieu qui peut le faire. On peut lire aussi dans Exode 38, je pense que ça va être beaucoup plus clair pour nous, le sens de ce recensement, de ce dénombrement, quand on lit Exode 38, on est rendu vraiment avant. Le chapitre 39 et 40, c'est vraiment la fin de la construction même et la dédicace du tabernacle, mais dans le verset 38, il y a comme un recomptage de tout ce qu'on a utilisé pour la construction du tabernacle. Donc, il y a comme un décompte, OK? Puis, on ne lira pas tout le chapitre 38, mais en ce qui nous concerne, oui, on lira ça parce que cela prend tout son sens, là. Pourquoi ces dénombrements? Pourquoi ces recensements avant de la fin de la description du tabernacle? Est-ce que vous êtes dans Exode 38, du 25 à 28? Suivez à la lecture. Moi, je vais le lire dans la version 8 secondes 21, parce qu'il y a la conversion, en fait, avec un peu le poids que nous utilisons maintenant. Donc, c'est pour ça que je vais le lire dans la 8 secondes 21. Mais c'est semblable, sauf que les mesures sont différentes. Donc, ça, on comprend beaucoup plus le sens. La quantité d'argent provenant des membres de l'Assemblée que l'on avait dénombré, donc ça veut dire qu'il y a eu un dénombrement, s'éleva à près de 3017 kilos et 750 grammes. Imaginez ça, 3017 kilos. D'après la valeur étalon du sanctuaire, cela correspond à 5 grammes par personne, la moitié d'une pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire, pour chaque homme âgé de 20 ans et plus, compris dans le dénombrement, c'est-à-dire 603 550 hommes. Avec 3000, et là, on rentre dans la spécification encore plus détaillée, avec 3000 kilos d'argent, on fondit les bases du sanctuaire et les bases du voile. 100 bases pour 3000 kilos, 30 kilos par base. C'est exact, hein? Dieu, c'est un Dieu d'ordre, comme mon frère le mentionnait, mon frère Isaac. J'étais pas là, mais j'écoutais ton message, mon frère. C'est bon, ça, par Internet. 30 kilos par base. Et avec les 17 kilos, 750 grammes qui restaient, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Tout était exact. Cette offrande-là a servi vraiment pour ça, pour la construction du tabernacle. Ces versets montrent qu'avant le tabernacle soit dressé, pour la première fois, un dénombrement avait eu lieu parmi les enfants d'Israël. Parmi toutes les richesses qui sont apportées à Moïse pour la construction du tabernacle, parce qu'on voit, avant le chapitre 38, on voit que tous les Israélites apportent des choses pour la construction. Parmi toutes ces richesses-là, l'argent, c'est-à-dire, je ne parle pas de monnaie, l'argent, le métal, est traité différemment que les autres dons. Pourquoi? Donc, l'argent sur laquelle reposait le tabernacle attestait en faveur des enfants d'Israël que la expiation pour les âmes avait été faite. L'argent qui reposait le tabernacle, c'est-à-dire les bases, sont faites en argent. Cet argent était imputé à chaque homme israélite comme ayant valeur du rachat. Et c'est la rançon due à l'Éternel. Il devint aussi un symbole de rédemption spirituelle nécessaire pour faire partie du peuple de Dieu. Imaginez, en ce qui concerne le tabernacle, parce que le tabernacle n'a pas duré trop longtemps, il a duré quand même longtemps, mais après c'est le temple. Donc, pour ce temps-là, le tabernacle était là, chaque fois je pense que les Israélites se réunissaient pour adorer, pour prier, pour présenter leurs offrandes, ils voyaient vraiment les bases du tabernacle, même du voile, que c'est ça leur offrande, à cause de leur achat. C'est ça qui donne le privilège de pouvoir être dans la présence de Dieu. Et sûrement, ils préfigurent le sang de Christ, que Christ versera plus tard en rançon pour les fautes des hommes. Cet argent-là préfigure. Maintenant, ça c'est concernant le peuple d'Israël. Et ce passage-là a une grosse signification pour eux. Dieu prépare son peuple pour qu'il puisse jouir de sa présence au travers du tabernacle. Il fallait qu'il paye ces sommes d'argent, ce poids en argent. Mais sous la nouvelle alliance, il est aussi question de racheter du Seigneur. Ce sont ceux qu'il a acquis en payant le rachat par les prix forts élevés de sa vie. C'est par sa vie que Dieu a racheté tout. Et on peut le lire dans plusieurs versets dans Apocalypse 5 aussi. Mais on peut lire aussi dans 1 Pierre 1:18 que Pierre écrit « Vous savez en effet ce n'est point par des choses périssables. Argent, et là, il mentionne l'argent. Ce n'est pas pour des choses périssables, argent ou or, que vous avez été racheté. En fait, toutes ces choses-là, comme Hébreu y en parle, c'est des images de ce qui vient là. Meilleur encore, Jésus-Christ. Vous savez que n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. C'est Christ notre rançon. On peut lire ça dans Timothée 2, 5 à 6, quand l'apôtre Paul écrit, « Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, quoi? Homme. Qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Encore une fois, « qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous, pour nous tous. » C'est le témoignage rendu en temps voulu. C'est Christ notre rançon. D'ailleurs, c'est lui-même qui le dit avant qu'il annonce sa mort et sa souffrance dans Matthieu 20, 28. Et c'est justement Matthieu 20, 28 qui mentionne aussi quand Jésus va devant le temple et puis demande un statuaire pour qu'il rentre. C'est Matthieu même qui mentionne ça. Et Marc 10, 45, il le mentionne. Mais lisons dans Matthieu 20, 28, c'est lui-même qui le déclare. Il est la rançon pour nous. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est un passage que vous connaissez très bien. Et Jésus dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, quoi? En rançon pour beaucoup, pour plusieurs. On ne peut pas le compter. Est-ce que vous pouvez compter tous les rachetés? Je ne pense pas. Mais en rançon pour beaucoup. Pour beaucoup. C'est lui la rançon. Frères et sœurs, le privilège et la joie que nous avons d'adorer Dieu, de jouir aussi de sa présence, est basé sur le sacrifice de Jésus sur la croix, qui nous a rachetés en donnant sa vie comme rançon pour nos péchés. Ce privilège qu'on peut avoir comme peuple de Dieu de pouvoir faire ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de son sacrifice. En fait, c'est ce que les quatre anciens ont chanté dans Apocalypse 5, 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et en ouvrir le sceau. Car tu as été quoi? Immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. » Pas seulement de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. On a été racheté par le sang de Jésus. On a ce privilège de pouvoir maintenant d'être dans la présence de Dieu. Et la présence parce qu'il habite dans nos cœurs, par son Saint-Esprit. Le peuple d'Israël pouvait se réjouir aussi de la présence de Dieu par la construction du tabernacle. Mais aussi ce peuple était appelé à être un peuple saint. Dans Exode 30, pasteur Richard a fini sa prédication dans l'Exode 29, en fait. Quand il parlait du parfum. Oui, c'est 30 quoi? Ah, pardon, c'est ça, là. Je cherchais 29. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Il a fini par ces mots-là. Ce sera une chose très sainte pour l'Éternel. Oui, il cherchait. On voit souvent dans tous ces passages-là l'appel à la sainteté. Mais ce verset-là, après le verset 16, il finit par dire dans le 10-16, 36, pardon, ce sera pour le fils d'Israël un souvenir. Oui, il voulait la sainteté, mais il voulait aussi qu'il se souvient qui est son Dieu. Et le peuple était conscient de ça. Et l'apôtre Paul parle de ces deux aspects dans 1 Corinthiens 6, 20 et dans Tite aussi 2, 14. Et je vais finir par ces deux passages-là. « Car vous avez été rachetés à grand prix, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été achetés Vous avez été acheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Notre corps aussi appartient à Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous exhorte? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Parce que vous avez été rachetés à grand prix. Il s'est donné lui-même, en parlant de Jésus-Christ, dans Tite, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui, zélé pour les œuvres bonnes. Ces œuvres bonnes qu'il parle dans Éphésiens 2:9, qu'ils ont créées et ont été créées à l'avance pour que nous les pratiquions. C'est un privilège de pouvoir être, comme Jean le dit, nommé enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, je nous exhorte à pouvoir vivre selon les commandements, selon la façon de Dieu. Et nous jouissons de ces moments-là en Église, de pouvoir chanter, de pouvoir adorer, de pouvoir même donner l'offrande à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause qu'il nous a rachetés de tous nos péchés. Amen.